Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du 25 janvier 2018. Hélène Denis avec vous. Bonjour Mathieu.
Hello, hello.
Comment allez-vous?
Je vais très bien, ouais. Merci.
C'est beau à l'extérieur.
C'est... Oui, effectivement.
Froid, froid, mais ensoleillé, ah non, belle toute, lumière.
Effectivement, je n'ai rien d'autre à dire que vous avez raison, chère dame.
Vous étiez mieux de dire ça. Alors, je vous écoute, mon cher.
Oui, 25 janvier. Remontons dans l'histoire. La première date que je vais vous donner, c'est 1533. C'est assez loin. Mm-hmm. À Londres, Henri VIII épouse Anne Boleyn, qui le fera
décapiter.
Et voilà. 1924, on fait un grand saut dans l'histoire. 1924, toujours un 25 janvier, début des premiers Jeux olympiques d'hiver à Chamonix, dans les Alpes françaises. Nous avons 1926, début du premier concours mondial de patinage de vitesse à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. 1931, libération de Mahatma Gandhi. 1937, Maurice Duplessis prononce un discours anticommuniste. Et le 24 février à Québec, il fera adopter la loi dite du cadenas. En 1953, à Liverpool, le paquebot Empress of Canada du Canadien Pacifique est détruit par le feu. 25 janvier 1971, Manson and Followers are convicted. Donc, les Manson... Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ma phrase est en anglais sur celle-là, mais voilà.
C'est drôle.
J'ai 1973, le 25 janvier, au Québec, le gouvernement Bourassa crée la commission d'enquête sur le crime organisé qui durera jusqu'en 1980. 1980, Paul McCartney... oui, c'est ça.
C'est qui, lui?
Je sais pas, c'est pas moi qui ai fait cette phrase. En tout cas, peu importe. J'ai des phrases en anglais que je traduis sur le champ.
Ah oui?
Oui.
What's up with Paul?
What's up with Paul? Il a été, semble-t-il, emprisonné au Japon et a été déporté du Japon en 1980. Mm-hmm. Voilà.
On ne sait pas pourquoi. C'est peut-être un rapport avec de la drogue.
Peut-être.
Il faudrait investiguer là-dessus, mon cher
D'accord.
Mathieu. Tu ne peux pas nous laisser comme ça, pends-toi.
Ah, c'est pour vous regarder à l'affût, justement.
Oui,
en 1986, passant à seulement... 81 000 km d'Uranus. La sonde Voyageur 2 y découvre un dixième anneau et une quinzième lune et un pôle nord. En 1991, toujours un 25 janvier, après une semaine d'attaques alliées sur l'Irak, le régime Saddam Hussein met le feu à des centaines de puits de pétrole au Koweït et fait déverser du brut dans le golfe Persique. À Montréal, 1999, Robert Flahif, juge à la Cour suprême, est reconnu coupable d'avoir blanchi 1,7 million de dollars de trafic de stupéfiants quand il était avocat. Et en 2013, la Cour suprême du Canada affirme que les couples québécois qui vivent en union libre pourront continuer de se séparer sans se voir imposer les obligations légales des couples mariés. Et pour ce qui est des naissances, j'en ai deux. La romancière britannique Virginia Woolf est née un 25 janvier 1882 et Louis Quilico, le baryton québécois, est né en 1925.
Vous avez oublié René-Charles Angélil.
D'accord.
C'est son anniversaire aujourd'hui.
Oh non, mais tout à fait. Souhaitons-lui un joyeux... Quel âge celui-là lui fait-il?
Ah, vous me posez une bonne question. Autour de 15-16 ans?
Ah, déjà?
Peut-être plus. Je vérifie.
D'accord.
Je vous reviens.
Et en 1947, Al Capone, le célèbre gangster américain, décède. Lui qui était né un 17 janvier 1899. Voilà ce qui complète les éphémérides d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et à plus tard.
René-Charles a 17 ans.
Ah,
bonne journée et bonne fête. À la une de la presse, grand reportage, l'attentat de Québec un an plus tard. Dans l'œil des témoins, la tragédie de la Grande Mosquée de Québec vue par ceux qui l'ont vécu. Exclusif, actualité, un espion chinois à McGill, le FBI soupçonne un professeur agrégé d'avoir comploté pour voler une technologie militaire américaine. Le FBI, la police fédérale américaine, aurait identifié un espion chinois à l'Université McGill. Selon ce qu'a appris la presse, un professeur agrégé aurait utilisé un laboratoire de l'établissement dans le cadre d'un complot pour voler une technologie militaire américaine utilisée dans les radars et les brouilleurs d'ondes, croient les enquêteurs. « C'est un malentendu. Nous sommes seulement des chercheurs. Nous faisons de la recherche », s'est défendu. Et Xiang Shi, joint par la presse hier. Professeur agrégé au département de génie, chercheur réputé, bénéficiaire de plusieurs fonds de recherche, titulaire de nombreux brevets et conférencier couru, il n'est accusé de rien pour l'instant. Mais il dit avoir déjà commencé à se chercher un avocat. Vendredi dernier, de gros véhicules utilitaires sport noirs de la Gendarmerie royale du Canada se sont garés devant une maison qu'il possède à Brossard, avenue Auteuil. Des policiers sont entrés et ont fouillé les lieux, puis saisi des documents. La maison située à quelques rues de la résidence familiale, dit Xiang Shi, est utilisée officiellement comme bureau pour la firme de recherche et développement JYS Technology, dont M. Shi et sa femme sont les seuls actionnaires. Il y avait une police dans l'entrée et des grosses camionnettes noires. Je ne les connais pas, les propriétaires de la maison, mais je sais qu'il y avait pas mal de personnes qui entraient et sortaient de là, a raconté Gérard Lauzé, un voisin qui assistait à l'opération. La GRC a dit être sur place pour prêter assistance au bureau du FBI à Los Angeles dans le cadre d'une enquête concernant le vol de secrets technologiques. Au moment même où les policiers canadiens fouillaient la maison du chercheur brossardois, des agents du FBI passaient à l'action au sud de la frontière et procédaient à l'arrestation de son frère Yi Shi Shi, titulaire d'une maîtrise en génie de l'Université d'Ottawa et professeur adjoint en génie à l'Université de Californie à Los Angeles. Dans un communiqué, le procureur fédéral américain Nicolas T. Hanna a indiqué que l'enquête concernait un complot pour dérober une technologie névralgique vitale non seulement pour les intérêts commerciaux des États-Unis, mais aussi pour ses intérêts militaires. Il a confirmé que les suspects avaient réussi, au moins en partie, à envoyer des secrets en Chine. L'information très sensible pourrait aussi être utile à des adversaires étrangers qui pourraient utiliser la technologie pour améliorer ou développer des applications militaires qui seraient néfastes pour notre sécurité nationale. C'est un extrait d'un communiqué du procureur fédéral américain. Yi Shi Shi, 62 ans, est accusé de complot et d'infractions liées à l'exportation illégale de technologies sensibles à usage militaire. Il demeure détenu et, s'il est déclaré coupable, fait face à 25 ans de prison. Chronique de Patrick Lagacé intitulée « Une histoire vraie ». Alors hier, je vous ai lu la chronique « L'enquête » de Nathalie Petrovski et c'est une histoire dont on parle beaucoup. D'ailleurs, on en parlera aussi à Tout le monde en parle dimanche. Et aujourd'hui, Patrick Lagacé signe une chronique intitulée donc « Une histoire vraie ». Elle s'appelle Éliane Gamache-Latourelle. Et pour des milliers de Québécois, elle était la jeune millionnaire, titre du livre coécrit avec Mark Fisher, qui a fait connaître son irrésistible histoire millionnaire à 30 ans. Selon le mythe, Madame Gamache-Latourelle s'était bâti une fortune en achetant des pharmacies. Après le livre, suite logique, elle s'était lancée dans les conférences et dans le coaching personnalisé pour aspirantes à la richesse entrepreneuriale, à 5 000 $ par année. Un autre livre a suivi, « La jeune millionnaire en affaires ». Tout cela n'était que placebo pour rester dans le domaine de la pharmacologie. Nathalie Petrovski a exposé hier dans la presse les mirages planant sur l'histoire de la millionnaire. Disons que beaucoup de gens ont expliqué pourquoi Mme Gamache-Latourelle était un mauvais modèle à suivre pour devenir riche. Après avoir lu l'enquête de Nathalie Petrovski, on peut penser que c'est une histoire de manipulation. On peut penser que c'est une histoire de poissons qui se sont fait plumer par une enquiquineuse. C'est probablement vrai, mais c'est aussi une histoire de confiance. Je parle de la confiance nécessaire pour tisser toute forme de relation humaine d'abord, avec des gens qu'on connaît ou pas. La revue National Geographic a publié en 2017 un dossier fascinant sur le mensonge, tout le spectre des mensonges de ceux que disent les enfants aux mythomanes qui en font le socle de leur vie inventée. « Why we lie, the science behind our deceptive ways. » Deceptive? Pardon?
Je dirais deceptive.
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 Oui, merci. Extrait, en français. Une grande partie de la connaissance que nous utilisons pour appréhender le monde nous vient de ce que les autres nous ont dit. Sans la confiance implicite que nous plaçons dans la communication humaine, nous serions paralysés comme individus et cesserions d'avoir des relations sociales. Traduction, selon le magazine qui a interviewé des menteurs, fraudeurs, espions, champions de poker et des experts de la psyché humaine, nous sommes programmés pour faire confiance, parce que dans le grand ordre des choses, c'est payant de faire confiance à autrui. Mais partant de cela, nous sommes aussi intrinsèquement vulnérables à nous faire rouler dans la farine. Si nous étions suspicieux d'autrui à chaque seconde, nous ne serions pas humains. Évidemment, ce bug de la psyché humaine permet aux enfiroi-peurs d'aller à la pêche. Cisla Bock, éthicienne à Harvard, citée dans le National Geographic, « Mentir est une façon plus facile de prendre de l'argent à quelqu'un que de lui taper sur la tête. » Alors, ces gens qui ont payé 350, 500 ou 5000 $ à Mme Gamache-Latourelle pour avoir accès à ses conseils, ils lui faisaient confiance. Pourquoi lui faisaient-ils confiance? Je reviens à la phrase du National Geographic. Une grande partie de la connaissance que nous utilisons pour appréhender le monde nous vient de ce que les autres nous ont dit. Alors, dans le cas de la pharmacienne millionnaire, on lui faisait confiance parce qu'il y avait des livres qui parlaient de son succès financier. L'éditeur avait bien dû vérifier les dires de son auteur. Et Mark Fisher, le super auteur à succès Mark Fisher, avait dû faire son enquête, non? Il y avait des centaines de personnes aux conférences de la jeune femme. Ces gens-là ne pouvaient pas tous être des cons, non? Et les médias en parlaient. On la voyait à la télé, on l'avait lue dans le Journal de Montréal, la presse avait filmé une entrevue avec elle. Ces médias devaient bien avoir vérifié les prétentions d'Éliane Gamache-Latourelle, non? Non. Il faisait confiance à l'éditeur. Ainsi fonctionne la confiance chez les humains. À la référence, si je puis dire. Ça marche la plupart du temps. Mais des fois, la propension à faire confiance est utilisée à mauvais escient. Pourquoi Bogingo était-il invité dans les médias? Parce qu'il était invité dans les médias. Alors, les médias l'invitaient. C'est le chien qui court après sa queue, bien sûr. Et quand on se met à vérifier, quand on fouille, on découvre que le chien n'a pas de queue, qu'en fait, c'est même pas un chien. C'est juste un autre fabulateur comme il en existe des milliers d'autres depuis des centaines d'années. La première recension du proverbe « à beau mentir qui vient de loin » date de 1694. Loin, c'est relatif de nos jours. C'est l'auteur québécois Mark Fisher, le champion du genre littéraire, guide qui explique comment atteindre le succès et sa cousine la richesse, qui a fait de Madame Gamache-Latourelle une star en co-signant avec elle la jeune millionnaire. Sur la page couverture de La Jeune Millionnaire, une histoire vraie, en lettres majuscules en plus. Les majuscules, c'est plus vrai. M. Fisher est le premier maillon de la chaîne de confiance que ne méritait pas sa jeune millionnaire pour se poser en exemple de succès en affaires capable d'inspirer autrui. Il disait hier à Denis Lévesque de LCN que c'est lui qui avait insisté pour capitaliser sur le mot « millionnaire » pour ce livre qui expliquait le succès d'Éliane Gamache-Latourelle. Mais millionnaire, millionnaire comment? On ne sait trop. M. Fisher ne semble pas s'être transformé en jury comptable pour contre-vérifier le conte de fées de la pharmacienne à succès dont il a co-écrit le bouquin qui a lancé l'infrastructure conférence coaching de Mme Gamache-Latourelle. Je souligne en terminant que Mark Fisher n'est pas le vrai nom de celui qui a propulsé Éliane Gamache-Latourelle. Il s'appelle Marc-André Poisson. Poisson, Fisher... On dirait bien que l'homme qui vendait des frigidaires aux poissons est, cette fois, le poisson de l'histoire de la millionnaire.
What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. and she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. If it rained, we didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right. This love of mine, my Valentine.
Peut-être reconnu, c'était Paul McCartney et sa chanson Valentine. Paul McCartney qui a passé 9 jours après que la police et les autorités japonaises aient retrouvé 8 onces de marijuana dans ses bagages lorsqu'il arriva au Japon. Voilà la petite histoire.
En quelle année?
1900. Attendez, j'en
trouve
ma feuille.
C'était pas pour vous piéger, parce que c'est pas aujourd'hui là, que ça s'est passé, c'est sûr.
Non, c'est en 1980, je pense. Attendez, là. Oui, 1980.
D'accord, merci pour cette explication.
J'avais déchiré ma feuille pour être sûr de pouvoir la refaire en français. Voilà, je me suis fait prendre.
Merci Mathieu. À la une du Devoir de ce jeudi 25 janvier, le budget de Montréal adopté dans la division. Quelques dizaines de personnes ont manifesté mercredi devant l'Hôtel de Ville de Montréal pendant qu'à l'intérieur, l'administration Plante Doré faisait adopter son premier budget qui se traduit par une hausse de taxes moyenne de 3,1%, c'est-à-dire au-dessus du taux d'inflation. Une photo nous montrant quelques manifestants et des pancartes. Dieselgate, Volkswagen poursuivi au nom de tous les Québécois. Occupation double rattrapée par la réalité des beaux sentiments. PH Pascal Hugo Caron-Quentin a infiltré l'émission, espérant en tirer matière pour sa maîtrise en littérature. Poste Trudeau s'affranchit d'une promesse. Brésil, la peine de l'ex-président Lula alourdie en appel. Économie des agriculteurs inquiets. Le nouveau partenariat transpacifique alimente l'inquiétude des producteurs de lait qui se demandent s'ils obtiendront une compensation. L'autorisation d'une action collective contre le constructeur automobile Volkswagen au nom de toute la population québécoise qui a dû respirer l'air des moteurs truqués crée un important précédent en matière de justice environnementale, affirment des avocats. Mercredi, le juge Daniel Dumais a autorisé ce recours entrepris par l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, AQLPA. L'organisme réclame une compensation de 35 $ pour chaque Québécois à titre de dommages punitifs à la suite du Dieselgate. Le scandale révélé en 2015 a montré que Volkswagen avait usé d'un stratagème lui permettant de fausser les résultats des tests d'émissions polluantes de certaines voitures de la marque allemande. Parmi les modèles visés, la Jetta, la Golf et la Beetle, mises en marché entre les années 2009 et 2015. Au Canada, le groupe automobile aurait vendu environ 100 000 véhicules diesel équipés du logiciel frauduleux. L'action est différente des autres actions collectives intentées jusqu'à présent puisqu'elle entend représenter les quelques 8,2 millions de Québécois et non pas uniquement les propriétaires ou les locataires des véhicules de marque Volkswagen. C'est inédit dans le sens où un recours contre une compagnie au nom de tous les Québécois, on n'a jamais vu ça, souligne Maître Anne-Julie Asselin du Centre québécois du droit de l'environnement. Pour Maître Michel Bélanger, un autre élément contribue au caractère original de cette affaire. Le juge conclut que bien qu'on ne puisse prouver les dommages causés à la santé de chaque Québécois, cela ne signifie pas pour autant que l'entreprise n'a pas à faire face à ses responsabilités. Volkswagen n'a pas souhaité commenter dans les médias. Nous sommes en train d'étudier la décision de la Cour sur cette première étape procédurale et sommes en train de déterminer la marche à suivre, a fait savoir un responsable des médias de Volkswagen Canada, Thomas Tetzlaff. Suppléants non qualifiés, un nombre minime selon Proulx. L'embauche de suppléants non légalement qualifiés n'est pas souhaitable, mais reste négligeable malgré la pénurie d'enseignants qui frappe plusieurs commissions scolaires, estime le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx. Le ministre mise sur les embauches. Il en promet 1 000 de plus pour la prochaine année pour venir à bout du recrutement de suppléants qui ne détiennent pas un brevet d'enseignement. Le règlement sur les autorisations d'enseigner prévoit que le suppléant occasionnel n'est pas visé par l'obligation de qualification légale, indique Brian Saint-Louis, responsable des relations de presse au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Il faut dire que les suppléants occasionnels n'ont pas la responsabilité d'un groupe classe et ce n'est pas ça l'objectif, précise le ministre Proulx. Le ministère a permis l'embauche de suppléants non légalement qualifiés sur une base occasionnelle pour éviter que des classes se retrouvent sans enseignants. Dans les facultés d'éducation, on s'inquiète des effets de cette politique sur la qualité de l'enseignement. Aussi, en ouvrant la porte au travail de suppléants non légalement qualifiés, on enlève de la valeur à la formation obligatoire en éducation, estime Monique Brodeur, doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal. C'est comme si on considérait que n'importe qui peut enseigner. Imaginez quelqu'un qui dirait « Je peux travailler comme cuisinier parce que je connais les aliments », a-t-elle dit au Devoir cette semaine. Justin Trudeau s'affranchit d'une promesse. Ceux qui ont perdu le service de livraison du courrier à domicile ne le retrouveront pas. Ottawa annule la conversion du courrier à domicile vers des boîtes communautaires, mais ne reviendra pas à la déception des facteurs sur les quelques 840 000 adresses qui ont perdu ce service pendant la réforme de Poste Canada, mise en œuvre par le gouvernement Harper. L'annonce faite mercredi après des mois de réflexion constitue la réponse du gouvernement à un engagement majeur pris pendant la campagne électorale de 2015, à une époque où Justin Trudeau évoquait l'objectif de restaurer le service à domicile. Poste Canada a enregistré des bénéfices nets de 99 millions en 2015, de 81 millions en 2016 et de 86 millions de janvier à septembre 2017. La remise sur pied du service à domicile entraînera un coût initial de 195 millions de dollars. Le Parti québécois s'est abstenu mercredi de présenter les candidats vedettes qui pourraient l'aider à former un éventuel gouvernement péquiste, préférant s'en remettre au service de Camille Bouchard afin qu'il conseille le parti sur les enjeux de la famille, de l'enfance et de la jeunesse. Vous ne verrez pas le visage de l'ex-député péquiste de Vachon sur les affiches électorales lors des prochaines élections. Celui qui a quitté la politique en décembre 2009 en se disant désabusé reprend du service pour le PQ, mais en coulisses seulement. Je le dis à tout le monde, c'est le temps de s'engager, a déclaré Camille Bouchard, en marge du caucus précessionnel du PQ à Shawinigan. Vous allez m'entendre beaucoup au cours de la prochaine campagne électorale, a-t-il promis. Montréal, le budget est adopté dans la controverse. L'opposition reproche de nouveau à la mairesse Plante de renier sa promesse. Après de longs débats, parfois acrimonieux, le premier budget de l'administration de Valérie Plante, qui impose des hausses moyennes de taxes de 3,3% aux propriétaires montréalais, a été adopté mercredi à 40 voix contre 24. Ce budget, nous l'avons pensé pour la génération future, celle qui a de la difficulté à obtenir une job, qui n'aura probablement jamais de sécurité d'emploi et qui ne connaîtra pas les bénéfices des fonds de pension qui offrent une latitude aujourd'hui. Nos préoccupations vont au-delà de la fausse indignation de l'opposition, elles visent le bien-être collectif, a dit la mairesse quelques minutes avant le vote. L'opposition a tenté jusqu'à la fin de convaincre l'administration de réduire les hausses de taxes, mais en vain. « Arrêtez votre cinéma, M. Pérez, votre main tendue, je n'y crois absolument pas. » Vous étiez très au courant des pots cassés que vous avez laissés, a dit Valérie Plante, mairesse de Montréal. Les ambitions de retour au pouvoir de l'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, surnommé Lula, ont subi un rude coup mercredi, sa condamnation à de la prison pour corruption ayant été confirmée à l'unanimité et même alourdie en appel par la justice brésilienne. Restez avec nous, la suite de l'émission Le quotidien des quotidiens après la pause et la chanson.
Pour ne plus revenir. t'attends. Ça sert à rien, je connais déjà le chemin entre l'ombre et la lumière. J'ai jamais eu besoin qu'on me tienne la main quand j'ai eu à traverser le désert. Une monte et moi je tombe.
Et voilà, chose due, puisque chose promise pour nos fidèles écouteurs, auditeurs. Nous vous l'avions promis la semaine passée. Alors voilà, c'était les Sœurs Boulay et Safia Nolin qui nous chantaient « Entre l'ombre et la lumière ».
Vous êtes un homme d'honneur, Mathieu. À la une du Journal de Montréal de ce jeudi 25 janvier, parce qu'il fumait dans son logement, expulsé à cause du pot. Le nouveau chef des Hells, c'est lui. Alors, on le voit, mais on ne voit pas ses yeux puisqu'il porte des lunettes miroirs. Toujours en une du Journal de Montréal, il quitte Production J. Johan fera cavalier seul. Vladimir Guerrero, le dernier expo au Temple de la Renommée. Un village tue ses dépanneurs en haussant ses taxes de 49 %. Les deux seuls dépanneurs de Pressac, un village de 800 habitants situé entre Rouyn-Noranda et Amos, ont annoncé leur fermeture à cause, disent-ils, de la hausse de taxes municipales de 49 % imposée au commerce en 2018. Selon le directeur général de Pressac, Gérard Pétrin, il s'agit du maximum que la municipalité peut imposer selon la loi, en vertu d'une nouvelle règle fiscale qui découle plutôt de la loi 122, Pressac doit augmenter la taxe des commerces même si eux ne roulent pas sur l'or. M. Pétrin constate que les citoyens consomment déjà massivement à Amos et Rouyn-Noranda et que les quelques commerces de Pressac sont précaires. Il faut parfois laisser aller les choses, croit celui qui gère une municipalité en très bonne santé financière. Juste un petit ajout à propos de ce dossier. Le village de l'Abitibi a augmenté les taxes de ses commerces pour aller chercher 600 000 $ de plus des mines d'or. Malade, il est expulsé de chez lui pour avoir fumé du pot légal. Un homme de Matane qui consomme en toute légalité du cannabis médical pour apaiser sa douleur sera expulsé de chez lui parce que sa fumée importune ses propriétaires, ordonne la régie du logement. Je ne sais pas si je suis rendu au point où je vais me ramasser dans la rue. Jamais je ne croirai que le tribunal va me mettre dehors en plein hiver, dit Ronald Chartier. L'homme de 54 ans entend continuer à se battre devant les tribunaux pour conserver son logement du centre-ville de Matane. Il doit normalement quitter le 9 février, tel qu'ordonné par la régie du logement le 8 janvier, parce que sa fumée pose des inconvénients sérieux aux propriétaires. Il serait le premier cas de consommateur légal visé par une telle expulsion au Québec, de l'avis des experts consultés. Pour son voisin d'en dessous et propriétaire du duplex, Gilles Chassé, la consommation des joints de son locataire est synonyme de nuisance nuit et jour. Ce qui nous dérange, c'est la senteur de la fumée, c'est nauséabond. Les yeux commencent à me piquer et elle colle à mes lèvres. Je peux la goûter, raconte M. Chassé, 75 ans. Lui-même, malade du cœur et des poumons, il craint que la fumée aggrave son état de santé et celui de sa conjointe handicapée. Il estime aussi que les habitudes de son locataire posent des risques d'incendie pour l'édifice. L'été, il ne peut ouvrir la fenêtre par crainte que la fumée entre chez lui. L'hiver, c'est la ventilation qui apporte l'odeur. La consommation de cannabis n'a pas été discutée lorsque M. Chassé a loué son logement, avoue-t-il, mais il a inscrit l'interdiction de fumer dans les règlements du logement plus tard. Même si les joints sont fumés de manière légale, note le juge, cela ne confère pas le droit d'importuner ses voisins avec la fumée. Le présumé leader des Hells Angels dans la mire. Les policiers soupçonnent Mario Brouillette de tremper dans la vente de drogue. Le plus jeune Québécois à devenir membre des Hells Angels au Québec est maintenant considéré comme la véritable âme dirigeante du gang de motards, se retrouve dans la mire des forces de l'ordre. Mario Brouillette est soupçonné d'être à la tête d'un important réseau de trafic de stupéfiants qui a été la cible de perquisitions de l'escouade nationale de répression contre leurs crimes organisés hier, a appris le journal de sources policières. Ce réseau basé sur la rive nord est directement lié à des membres influents des Hells Angels, d'après un communiqué diffusé par cette nouvelle brigade d'enquêteurs de la Sûreté du Québec, de la Gendarmerie royale du Canada, de la police de Montréal et celle de Laval. Et même s'il a juré avoir pris sa retraite des Hells après sa dernière condamnation en marge de l'opération Shark Québec, ou Shark point final, Brouillette est néanmoins vu comme celui qui tire présentement les ficelles au sommet de l'organisation. Un peu moins de 48 heures après s'être évadé de l'Institut Philippe Pinel, un meurtrier a été retrouvé par les policiers de Montréal hier à La Salle. Sean Brennan, 29 ans, a été arrêté hier avant midi par des patrouilleurs, a confirmé la Sûreté du Québec. L'homme marchait sur le boulevard Newman lorsque les agents l'ont reconnu. Il n'a pas résisté à son arrestation. Michel Arsenault, un entraîneur de gymnastique de haut niveau visé par des allégations d'agression sexuelle sur de jeunes athlètes, fait l'objet d'une enquête de la Sûreté du Québec, a rapporté Radio-Canada hier. Selon ce qu'a indiqué la SQ à la chaîne télévisée, la police a reçu 5 plaintes, dont 2 pour des agressions sexuelles. Les Montréalais pourront dire un dernier au revoir au père Emmett Jones Pops alors qu'il reposera aujourd'hui et demain en chapelle ardente dans le hall d'honneur de l'Hôtel de Ville de Montréal. Ceux qui souhaitent rendre hommage au fondateur de l'organisme dans la rue, décédé le 13 janvier dernier à l'âge de 89 ans, pourront le faire de 16h à 21h aujourd'hui et de 13h à 18h30 demain. Les Montréalais sont également invités à une messe de funérailles à la mémoire de l'homme qui a changé la vie de nombreuses personnes. Celle-ci aura lieu le samedi 27 janvier à 10h30 à la Basilique Saint-Patrick de Montréal. Le père Emmett Jones a dédié une partie de sa vie aux jeunes sans-abri de Montréal. En 1988, après 40 ans passés comme curé, il fondait Le Bon Dieu dans la rue, aujourd'hui simplement dans la rue. À l'époque, Pop se parcourait la nuit les rues de Montréal à bord d'un motorisé usagé. Les jeunes sans-abri pouvaient se réchauffer et manger un morceau.
Like a bird on the wire, like a drunken midnight choir, I have tried in my way to be free. I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go.
Leonard Cohen et sa merveilleuse chanson Bird on the Wire.
Les journaux régionaux, Martin Lafrenière, rien n'a changé, Joanne Panton réagit avec colère. Trois-Rivières, les récentes sorties de familles dénonçant le manque de personnel et la diminution de la qualité des soins dans les CHSLD ne surprennent pas du tout Joanne Panton. Cette femme avait été mise à l'avant-scène de l'actualité en juillet 2015 en allant rendre visite à sa mère à la résidence Cook de Trois-Rivières. Elle avait capté sur vidéo une scène qui l'avait choquée. Elle avait vu deux résidents couchés au sol après avoir fait une chute réclamant de l'aide, mais les membres du personnel étaient introuvables à cet étage. Madame Panton avait diffusé les images sur les réseaux sociaux, ce qui avait entraîné une tempête de réactions. Cet événement avait secoué le milieu de la santé. Le ministre Gaétan Barrette avait demandé à son ministère de mener une enquête. Le Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec avait déposé un mois plus tard un rapport contenant certaines recommandations. À la lumière des commentaires faits depuis le début de la semaine par plusieurs familles du Centre Cloutier du Rivage et des observations de la famille Savard à propos du Centre Roland-Leclerc, Joanne Panton avoue avoir réagi avec colère. « Rien n'a changé. Et je pense que ça ne va pas changer si on ne met pas plus de personnel et si on ne fait pas les changements qu'il faut. Les préposés et les infirmières sont à bout de souffle. Mais on arrive en période électorale. Ils vont sortir de belles promesses », affirme Mme Panton, dont la mère est morte en février 2017. Les commentaires négatifs concernant la piètre qualité des repas souvent servis froids, les couches changées moins régulièrement et les bains remis sont autant d'exemples sur lesquels Mme Panton appuie sa pensée. « Je lève mon chapeau aux préposés. On leur demande de prendre soin de nos parents qui sont dans les CHSLD, mais ces gens sont plus malades d'épuisement que les résidents. Une idée proposée par une famille était de permettre à des bénévoles d'offrir de leur temps pour nourrir les résidents et leur tenir compagnie. Joanne Panton estime que l'idée se défend, mais pourrait inciter le gouvernement à s'en laver les mains. À force de donner du temps, on est toujours là pour protéger nos parents que le gouvernement ne se force pas trop, car il sait qu'on va être là pour aider. Je ne suis pas certaine que messieurs Couillard et Barrette, Philippe le premier ministre du Québec étant le ministre de la Santé, vont finir leur jour là. Et moi, j'espère ne jamais avoir à aller là. Claude Audy affirme que les propos de la famille Savard sont véridiques. Selon le vice-président régional de la Fédération de la santé et des services sociaux, la stabilité du personnel est un enjeu majeur. Mais il faut que le réseau mise sur davantage de préposés aux bénéficiaires pour pouvoir leur permettre d'exercer leur métier dans de meilleures conditions. On n'est pas capable d'aller au rythme des résidents. Ça cause d'autres problèmes chez eux, comme de l'anxiété, de l'agressivité, car il faut accélérer. Mais si un préposé avait du temps, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Selon M. Audy, le CIU3S a eu une bonne idée en établissant un programme de reconnaissance des acquis pour faciliter l'arrivée de nouveaux préposés dans le réseau. Mais toutes les mesures prises par la direction doivent être simplifiées et donner de meilleurs résultats dans des délais plus courts qu'actuellement. Le représentant syndical remarque que les sorties publiques font boule de neige depuis lundi, car d'autres familles se sont manifestées pour joindre le mouvement de protestation. Il incite la population à continuer de dénoncer et à réclamer des actions concrètes. D'après le représentant syndical, la CSN tiendra en mars une grande assemblée durant laquelle les familles pourront probablement recevoir l'avis d'un conseiller juridique concernant une possible demande de remboursement des frais associés à des services qui ne sont pas offerts. Dans le soleil, Yann Bussière Markham proclame le 29 janvier journée contre l'islamophobie. La ville ontarienne de Markham a proclamé la journée du 29 janvier 2018, premier anniversaire de la tuerie de la Grande Mosquée de Québec, comme journée de souvenir et d'action contre l'islamophobie. Le maire de Markham, Frank Scarpitti, a publié mercredi une proclamation en ce sens au moment où le Parti libéral du Québec a dit ne pas croire qu'il soit nécessaire de décréter une journée nationale contre l'islamophobie, que le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec s'y opposent et que le gouvernement canadien poursuit sa réflexion en ce sens. Markham est la première municipalité de la grande région de Toronto et l'une des premières au pays à proclamer le 29 janvier comme journée de souvenir et d'action contre l'islamophobie au premier anniversaire de la tragédie du Centre culturel islamique de Québec. Merci, Conseil national des musulmans canadiens, a écrit le maire Scarpitti sur le site de micro-blogage Twitter au-dessus d'une photo de la proclamation officielle, qualifiant la tuerie d'innommable acte de haine ayant fait 6 morts et plusieurs blessés. La ville de Markham a rappelé dans cette proclamation que les suites de cette attaque avaient incité plusieurs résidents de Markham et plusieurs Canadiens à se réunir pour se souvenir et honorer les victimes. Le conseil municipal a aussi voulu réaffirmer que l'islamophobie, comme toutes les autres formes de racisme, de haine, de xénophobie et de bigoterie, n'avaient pas leur place dans la ville de Markham. L'idée d'une journée nationale de souvenirs et d'action contre l'islamophobie provenait du Conseil national des musulmans canadiens, qui avait demandé au premier ministre canadien Justin Trudeau de reconnaître comme tel l'anniversaire du drame de la Grande Mosquée. Dans le soleil, toujours, sous la plume cette fois de Anne Drolette, nouvelle app québécoise à la conquête des célibataires. C'est une exclusivité. Cupidon aura une flèche de plus à son arc cette année. L'entreprise de la capitale Célibataire Québec lancera le 14 février une nouvelle application de rencontre pour concurrencer les Tinder de ce monde. Déjà avant même le lancement officiel qui aura lieu pour la Saint-Valentin, plus de 1000 personnes sont inscrites sur Go See You, maintenant bien rodée, indique l'entrepreneur Mélanie Trudel. Pourquoi une application? La femme d'affaires explique que la demande est incroyable de la part des nombreux célibataires de la région et même de la province et que les événements ponctuels qu'elle organise partout au Québec ne suffisaient plus. Madame Trudel a aussi voulu contrer certaines failles qu'ont, à son avis, les applications actuelles. Ainsi, il y a une icône sérieux pour bien identifier les gens qui cherchent un compagnon ou une compagne à long terme. Une personne qui n'a pas activé cette icône recevra un message dissuasif lorsqu'elle voudra signaler son intérêt à quelqu'un qui cherche du sérieux, explique Mme Trudel. Une option permet aussi d'indiquer clairement la situation familiale. On peut indiquer si on est parent, de jeunes ou de vieux rejetons, si on veut avoir des enfants et si on accepte de fréquenter des gens qui en ont. Une façon de mieux éviter des irritants potentiels à la source. Vos horaires atypiques compliquent vos amours ou au contraire, vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui fait du 9 à 5 comme vous? Une case vous donnera l'heure juste sur les horaires des candidats. Encore une fois, l'idée est de limiter au maximum les mauvais matchs. Possible aussi de quantifier à l'aide d'étoiles vos intérêts pour savoir, par exemple, si votre flamme potentielle aime le sport un peu, beaucoup ou à la folie. La Tribune, Steve Bergeron, le court-métrage Fauve, écrit et réalisé par le cinéaste d'origine cherbourgoise Jérémy Comte, a remporté mardi soir un prix spécial du jury du festival du film de Sundance. C'est vraiment incroyable, c'est fou, je capote ben raide de commenter le nouveau lauréat en entrevue téléphonique à Park City en Utah. Le réalisateur de 27 ans était déjà surpris d'avoir été retenu dans la programmation parmi les 9000 courts-métrages soumis aux prestigieux événements cette année. Surtout qu'il avait envoyé une version non définitive de Fauve dans son dossier de candidature. C'est quand on s'est mis à décrire mon film au gala de mardi soir que j'ai commencé à penser que je pourrais gagner. Surtout lorsqu'on a parlé de deux jeunes acteurs, raconte Jérémy, qui s'est empressé ensuite de téléphoner à ses deux comédiens enfants. Tourné en été 2017 dans une mine à ciel ouvert de la région de Thetford Mines, Fauve met en vedette Félix Grenier et Alexandre Perrault, respectivement de Stratford et Datstock. Il raconte l'histoire d'un tandem de garçons qui s'enfonce dans un jeu de pouvoir malsain. « Et finalement, dans le droit, l'annulation mur à mur du transport scolaire, comme ce fut le cas mardi à Ottawa et en Outaouais, est rarissime. Et la météo a beau être très similaire, le processus menant à la prise d'une telle décision n'est pas le même des deux côtés de la rivière. Lorsque la météo fait des siennes, le transport scolaire est immédiatement mis à mal. Selon que l'on habite en Ontario ou au Québec, les procédures d'annulation du transport diffèrent. On y reviendra certainement. Ah, j'ai le temps de vous dire à ce sujet. Sur la rive ontarienne, c'est le Consortium de transport scolaire d'Ottawa qui regroupe une vingtaine d'entreprises assurant le transport des élèves du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario qui a le pouvoir de trancher.
C'était Niagara qui nous chantait la chanson « Soleil d'hiver ».
«
Anthony Cavanagh a eu peur de mourir. L'humoriste a subi une embolie et un infarctus pulmonaire le mois dernier. Anthony Cavanagh a pensé que son heure était arrivée le mois dernier. Dans une entrevue exclusive accordée au Journal de Montréal, l'humoriste de 48 ans revient sur cette grave expérience qui lui fait maintenant remettre sa carrière en question. Anthony Cavanagh va beaucoup mieux. En entrevue au bout du fil, durant plus d'une heure, l'humoriste raconte avec énergie les dernières semaines qu'il a vécues et tous les chamboulements que cette mésaventure a occasionnés dans sa vie. « Je suis en fin d'arrêt de maladie jusqu'au 1er février, dit-il. Après, j'attaque les shows. Je veux rassurer les gens et leur dire que je serai en forme pour reprendre la tournée. » Alors, on dit ici, au moment de son infarctus, il a pensé mourir. C'est un infarctus pulmonaire. Alors, il raconte, on m'a amené aux urgences où j'ai subi une batterie de tests. C'est là qu'ils m'ont dit que j'avais fait une embolie pulmonaire. J'ai été hospitalisé durant 5 jours et il a aussi fait un infarctus pulmonaire, une complication de l'embolie. Ça se passait en Nouvelle-Calédonie. Au moment donc de son infarctus, il a pensé mourir. Quand je n'arrivais plus à respirer, c'est sûr que j'ai pensé à tout ça. J'ai pensé que c'était fini. Depuis son hospitalisation, Anthony Cavanagh est en profonde remise en question. Je dois retourner aux priorités, ma famille, la santé, mes amis. Il faut que je lève le pied. Il reprendra sa tournée le 2 février à Drummondville. Pour toutes les dates, anthonycavanagh.com. La chronique d'Hugo Dumas intitulée « Le combat des mères, Madeleine ou Daniel ?» Dans le coin droit, celui de Radio-Canada, il y a Madeleine, incarnée par Sylvie Léonard, de lâcher prise, femme cultivée, retraitée montréalaise, aigrie et mitrailleuse de répliques assassines. Dans le coin gauche, celui de TVA, il y a Daniel, Guylaine Tremblay, dans tout cas, femme moins de son temps, retraitée de Val-d'Or transplantée à Montréal et mitrailleuse de reproches. Deux grandes actrices dans deux rôles de mères fort différentes qui s'affrontent dans la case horaire du lundi à 19h30. Après le premier round, la belle Danielle et ses 1 212 000 fans ont aplati Madeleine et ses 677 000 adeptes. Au troisième round, ding ding, l'explosive Madeleine et ses 774 000 supporters ont pris le dessus sur Daniel et ses 742 000 fidèles. C'est tout un renversement de tendance qui inquiète sûrement TVA. Une émission avec Guylaine Tremblay, l'actrice la plus aimée du Québec, qui chute abruptement dans les sondages Numéris. C'est incompréhensible, impossible, inexplicable. J'ai une théorie sur l'effondrement des codes d'écoute dans tout cas. Le portrait que brosse cette comédie des femmes de plus de 50 ans habitant en région n'est pas super reluisant. Le personnage de Daniel récite un chapelet de clichés sur la grande ville et ses habitants, crie beaucoup et perd tous ses moyens en entendant sonner sa nouvelle Apple Watch. Le public de TVA se compose de nombreuses téléspectatrices ayant un profil socio-économique similaire à celui de Daniel, et elles n'ont peut-être pas été heureuses de se voir dépeintes comme des épaisses pour paraphraser plusieurs messages que j'ai reçus dans les derniers jours. Sur l'autre chaîne, Madeleine, de lâcher prise, incarne le contraire de Daniel, une femme moderne, vive d'esprit, au courant de l'actualité et qui sait comment utiliser FaceTime sur un téléphone intelligent. D'autre part, le lien affectif entre Daniel et sa fille Chloé, Anne-Élisabeth Bossé, ne saute pas aux yeux, même qu'on se demande comment Chloé fait pour ne pas arracher la tête de sa mère qui la picote sans cesse, qui la blesse de façon insouciante et qui ne cache pas sa préférence pour son frère Fred, Michael Gouin. La tendresse dans la relation mère-fille émane souvent de Chloé, qui prend sa mère en pitié. Au dernier épisode, Chloé a sauvé Daniel de l'humiliation dans une scène très touchante qui suivait une interminable engueulade à propos du saumon et de la couleur rose. Voilà un exemple parfait des dérangeantes ruptures de ton qui ponctuent en tout cas. Dans « Lâcher prise », la finesse de l'écriture d'Isabelle Langlois rend Madeleine attachante malgré sa tonne de défauts. Oui, Madeleine n'épargne pas sa fille Valérie, Sophie Cadieux, mais on sent toujours qu'elle l'aime profondément et qu'elle ne souhaite pas la heurter. C'est un peu injuste, je l'admets, de comparer la première œuvre de Raphaël Germain à celle d'Isabelle Langlois, la plus grande spécialiste de la sitcom au Québec. Mais les deux productions exploitent des thèmes similaires et ont été placées l'une contre l'autre, ce qui rend les recoupements difficiles à éviter. L'approche de Raphaël Germain se colle plus aux sketchs courts, tandis qu'Isabelle Langlois déploie ses intrigues sur un plus grand nombre d'épisodes. Il y a une construction d'histoire plus élaborée dans Lâcher prise que l'on ne retrouve pas dans En tout cas. À la question qui chapeaute cette chronique, je réponds donc Madeleine, dont la langue claque aussi fort que ses escarpins sur un plancher de bois franc. Alors voilà. Parce que la question était les combats des mères Madeleine ou Daniel. Il répond Madeleine. Gagnant de La Voix en 2014, Johan Garneau a vendu plus de 130 000 exemplaires de son premier disque, sorti en 2015. 3 ans plus tard, le chanteur de 22 ans revient avec un nouvel album co-réalisé avec Rob Heaney. Ces quelques années de recul ont permis à l'auteur-compositeur-interprète à la voix grave et aux racines country de faire des changements dans son équipe. Il n'est plus avec les productions J et a fondé son étiquette pour produire son disque, qui sera distribué par Distribution Select. C'est par ailleurs l'agence Evenco qui s'occupera de sa tournée prévue à l'automne. Le disque de Johan sera en vente le 23 mars et le premier extrait intitulé « Sans fin » le 2 février. La comédienne Meryl Streep sera de la deuxième saison de la série télévisée Big Little Lies. La nouvelle, dévoilée hier après-midi par Variety, a instantanément enflammé le web. Meryl Streep incarnera le personnage de Mary Louise Wright, mère de Perry. Elle débarquera à Monterey pour s'occuper de ses petits-enfants à la suite de la mort de Perry, qu'elle cherchera aussi à expliquer. Selon Variety, la comédienne sera payée 800 000 $ par épisode. Toujours diffusée sur HBO, la deuxième saison de Big Little Lies sera réalisée par Andrea Arnold, alors que Jean-Marc Vallée, réalisateur de la première saison, agira à titre de producteur délégué. Et pour terminer, le Musée de la mode de Montréal est intégré au Musée McCord. Le Musée de la mode, qui avait pignon sur rue au marché Bon Secours de Montréal depuis 2013, n'est plus. C'est ce que nous apprend Caroline Montpetit dans Le Devoir d'aujourd'hui. Toutes les collections, les archives ainsi que le personnel de ce petit musée font désormais partie du Musée McCord-Stewart. Les deux institutions ont rendu publique cette fusion cette semaine. C'est à cause des problèmes financiers du Musée de la mode que cette décision a été prise et que l'organisme a définitivement fermé ses portes le 31 décembre dernier. D'abord fondé à Saint-Lambert dans les années 1970 sous le nom de Musée Marcille, le musée a déménagé à Montréal en 2013 et y a été successivement connu sous le nom de Musée du costume et du textile, puis de Musée de la mode. En déménageant à Montréal dans le marché Bon Secours, le petit musée a cependant dû faire face à des hausses de loyers considérables. Ses collections regroupent quelques 7000 vêtements et accessoires, principalement des 20e et 21e siècles, dont de divers individus.
3, 1, 2, 1, 2, 3. C'est le que c'est ça, c'est le musée. Mais c'est le pourquoi que c'est ça. C'est pour le jamais vu. Ah ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu. Y'a le fossile d'une belle femme avec la queue d'un poisson.
Y a un cheval à talons hauts qui trotte et puis qui trotte à reculons. Y a une paire de siamoises qui veut pas décoller. Une qui fume et puis l'autre qui passe son temps à tousser. C'est le que c'est ça, c'est le musée, c'est le pourquoi donc. Jamais vu, ah ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu. Y'a un bessec à pédale pour rouler sur des œufs à la coque. Y'a une machine pour exaucer tous les vœux qui disloquent. Y'a le squelette au complet de l'homme à rayon X. Le bouchon pour le drain de l'océan Atlantique. Une pelle à deux manches pour les travaux forçants. Y'a un arbre à éléphant. Y'a un cyclope qui louche. Ben voyons donc. Des lunettes pour les mouches. C'est le que c'est ça, c'est le musée de la pourquoi non. Pour le jamais vu, ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu. Ça tient sous des cloches de verre, dans des bouteilles d'informel. C'est piqué sur des panneaux de Liège, ça nous demande qu'à y croire. Il y a l'aurore boréale, il y a un collier de rire. Il y a une balayeuse qui danse dans la poussière d'avenir. Des longs rubans de temps, des enfants de 1000 ans. Une cage sans barreaux, avec la liberté dedans. C'est le que c'est ça, c'est le musée, c'est le pourquoi c'est ça. Bon, jamais vu, ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu. C'est le que c'est ça, c'est le musée, c'est le pourquoi c'est ça. Bon, jamais vu, ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu. C'est le que c'est ça, c'est le musée, c'est le pourquoi c'est ça. C'est le jamais vu, ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu.
C'était Fred Pellerin et sa chanson... Non, c'était la chanson « Le musée du jamais vu ».
Manger plus local, même à moins 20 degrés Celsius, c'est un article de Bernard Lavallée, nutritionniste, une collaboration spéciale dans la section Pause repas dans la presse d'aujourd'hui. Suis-je le seul qui en a déjà assez de la neige? Je sais, il est encore tôt dans l'hiver pour commencer à m'impatienter, mais bon, les fruits et les légumes fraîchement cueillis de mon potager et mes visites au marché public me manquent beaucoup. J'essaie le plus possible de manger selon les saisons, mais l'hiver, quand la diversité de produits d'ici commence à diminuer, je me tourne un peu plus souvent vers les aliments venus d'ailleurs. On oublie souvent la chance que nous avons d'avoir accès à autant de denrées. Se tourner vers ces fruits et légumes qui ont voyagé des milliers de kilomètres, c'est plutôt facile. Les supermarchés en sont remplis. Ce qui est plus difficile et relève plutôt du défi, c'est de continuer à s'approvisionner en produits locaux, même l'hiver. C'est donc pour cette raison que je vous transmets trois de mes trucs pour encourager les producteurs d'ici, même quand les champs sont enneigés. La première chose, c'est d'apprendre à adapter le menu selon les saisons. Après tout, ce n'est pas la fin du monde de manger moins souvent du melon d'eau en janvier qu'en août. Au contraire, on peut miser sur les aliments d'ici qui sont encore frais, même en ce moment. Je pense par exemple aux pommes de terre, aux betteraves, aux carottes, aux navets, aux choux, aux oignons, à l'ail, aux poireaux, aux céleri raves et aux courges. Le but, ce n'est pas de faire comme nos arrière-grands-parents et de ne manger que des pommes de terre, des navets et des betteraves pendant tout l'hiver. C'est plutôt de baser nos assiettes plus fréquemment sur ces aliments. C'est le temps idéal pour les ragoûts, les mijotés et les plaques de légumes grillés au four. La meilleure façon de rajouter un peu de légumes fraîchement cueillis, c'est de les cultiver soi-même. Par contre, à cause de la luminosité réduite pendant l'hiver, on doit oublier les légumes traditionnels du potager. Mais les pousses et les germinations, elles, n'en demandent pas autant. tout ce dont vous avez besoin, ce sont des graines, tournesol, chia, radis, moutarde, brocoli, quinoa, légumineuses, etc. Un pot de verre transparent, de l'étamine, communément appelée coton à fromage, un élastique, puis de l'eau. On place les graines dans le pot, qu'on recouvre d'étamine et qu'on fixe avec l'élastique. Ensuite, on remplit le pot d'eau pour rincer les graines, puis on le laisse s'égoutter. Vous devez répéter cette étape chaque jour, matin et soir. Enfin, il ne vous reste plus qu'à installer le pot sur un bord de fenêtre. Pas besoin de plus de lumière que ça. Contrairement à ce que certains pourraient penser, nul besoin d'acheter des graines spécifiques pour la germination. On peut s'en procurer dans n'importe quel supermarché. En quelques jours, vous aurez de la verdure locale à vous mettre sous la dent pour un prix défiant toute concurrence. L'hiver, c'est aussi le moment de l'année où il arrive fréquemment que les légumes et les fruits surgelés coûtent moins cher que les frais. Un exemple que la transformation alimentaire amène aussi du bon. Avec le temps, on voit de plus en plus de produits d'ici conservés par le froid. Je pense aux choux-fleurs, aux choux de Bruxelles, aux brocolis, aux haricots, aux petits pois, aux épinards, au maïs, aux fraises, aux framboises et aux bleuets. Les mélanges pour soupe, potage, sauté et sauce peuvent également être très pratiques pour gagner du temps. Et en prime, la congélation permet de conserver tous les nutriments de ces aliments qui sont cueillis à maturité. Toujours dans cette section repas, Aliments santé, tendance 2018 des plantes dans nos plats, c'est un texte de Marie Allard. On s'en doute, le bacon ne fait pas partie des tendances de l'heure dans l'assiette. Pour mettre le doigt sur ce qui inspirera l'industrie de l'alimentaire et des boissons cette année, l'agence Edelman a fait appel à ses 56 bureaux à travers le monde, dont celui de Montréal. Caroline Chevrier, vice-présidente principale santé d'Edelman Canada, a présenté hier les tendances de l'année 2018 lors d'une journée de conférence organisée par la Fondation Montréal Inc. et Dux, DUX. En voici cinq. Les protéines à base de plantes. Cette tendance est vraiment, vraiment à la hausse à cause de considérations environnementales, dit Mme Chevrier, jointe avant sa présentation. On sait aussi qu'il y a des discussions pour taxer la viande rouge. La refonte du guide alimentaire canadien attendue cette année doit également mettre l'accent sur les protéines végétales. Il y a des recherches poussées pour faire de la viande, même des steaks à base de plantes au goût de viande, souligne la titulaire d'un baccalauréat en microbiologie de l'Université de Sherbrooke. Nourrir son microbiome. On a de bonnes bactéries. On a de moins bonnes bactéries, et si on nourrit nos bonnes bactéries, on a beaucoup plus de chances d'être heureux, en santé et mince, selon diverses études faites sur le microbiome, résume Mme Chevrier. Résultat, les aliments fermentés et probiotiques sont de plus en plus présents sur les tablettes. Kombucha, miso, tempeh, jus fermenté et kéfir ont la cote. C'est la catégorie de produits d'aliments naturels qui croît le plus en Amérique du Nord, précise-t-elle. Je continue. À prédire en 2018 une déferlante de latès à lavande, de boisson à la rose ou encore de thé à l'hibiscus rose en version chaude ou glacée. Les fleurs donc sont à l'honneur. L'étoile montante, la fleur de sureau. Si on veut être trendy dans un souper du samedi soir, on va décorer nos assiettes avec des fleurs de sureau ou en mettre dans notre cocktail ou dans notre verre de bulle, suggère Mme Chevrier. Après avoir trop entendu parler des vertes fleurs de cannabis bientôt légalisées, les petits pétales pâles font rêver avec moins d'effets secondaires. Colorer, autre tendance, c'est la nourriture instagrammable, une tendance qui vient vraiment des milléniaux, décode Mme Chevrier. On veut des couleurs vibrantes et audacieuses, beaucoup de jus de framboise, de jus de cerise, de fruits qui sont beaux, bons et attirants. À l'aéroport de Paris, Mme Chevrier a récemment vu des shooters de curcuma, jus de citron et gingembre. C'est hyper coloré, décrit-elle, un petit shooter énergétique santé. Le noir s'installe également à table avec des crèmes glacées et autres pains à hamburger foncé. Il y a aussi des lathèses au charbon végétal activé, indique-t-elle. Dire qu'à une autre époque, ce sont les enfants turbulents qui recevaient du charbon en cadeau. L'appel des tribus. Nous rejoignons de plus en plus des tribus diététiques à la mode afin de nous définir comme individus, estime Mme Chevrier. On est végétarien, flexitarien, vegan, bio, paléo, keto, etc. On se divise selon nos valeurs et les enjeux sociaux qui nous touchent, note-t-elle, cela révèle notre personnalité. 5 autres tendances ont été définies par Edelman pour 2018. Les aliments menacés, la demande de transparence, l'intégration de la technologie, l'agriculture urbaine et le flexitarisme. Les 13 enfants et jeunes adultes qui ont été libérés il y a 10 jours en Californie après avoir été maintenus captifs et torturés par leurs parents font l'objet de nombreuses offres d'adoption, ont indiqué les services sociaux. La juge Emma Smith a par ailleurs signé hier un ordre interdisant tout type de contact à David et Louise Turpin avec leurs enfants jusqu'en 2021, sauf par l'intermédiaire de leurs avocats. Il y a eu des offres d'adoption, mais cela ne veut pas dire que ça va aboutir, a indiqué Kimberly Trone, porte-parole des services sociaux du comté de Riverside, où vivaient David et Louise Turpin, 57 et 49 ans respectivement, jusqu'à leur arrestation le 14 janvier. Les 13 enfants âgés de 2 à 29 ans ont été libérés par la police au domicile de leurs parents, où ils étaient séquestrés dans la petite ville de Paris, près de Los Angeles. Les policiers les ont retrouvés dans l'obscurité, affamés et dans d'extrêmes conditions de saleté, certains enchaînés à un lit. C'est l'une des filles âgées de 17 ans qui a donné l'alerte après avoir échappé à la surveillance des parents geôliers. Un grand merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis, merci. Cher Mathieu Tessier, à la régie et aussi au choix musical. Et je vous invite à rester avec nous si vous nous écoutez en direct, l'émission Les Paractualités, avec moi-même, Hélène Denis. À très bientôt.